Onde Femmes, Radio Zone 93.8.
Die Philosophie der Damen soll kurz, klar und elegant sein.
La philosophie des dames doit être courte, claire et élégante. Remue-ménage.
Onde Femmes. Onde Femmes, c'est sur Radio Zone 93.8 et c'est tous les mercredis. Bonsoir et bienvenue dans Onde Femmes, Radio Zone 93.8 et comme tous les mercredis, c'est Remue Ménage et aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé, eh bien c'est en compagnie de notre amie de la librairie des femmes, l'inédite Annette Zimmermann, que nous nous retrouvons après une longue année de séparation quasiment, Annette.
Non, tout de même pas tout à fait, quelques mois.
Oui, mais quand même, ça m'a paru une éternité, il faut avouer. Mais heureusement, alors tu nous reviens avec plein de livres, je disais tout à l'heure, quand j'ai vu arriver Annette, nous avons droit à notre librairie ambulante. Et qui, effectivement, puisque Annette a choisi de nous présenter des livres aujourd'hui très divers les uns des autres, quelques-uns à ma demande et puis d'autres ses coups de cœur, parce que vous connaissez, vous savez bien, Annette Zimmermann a plein de coups de cœur de littérature et au sein de la librairie des femmes, elle les fait partager largement. Vous lisez peut-être ses comptes rendus dans Livre à elle, ce petit magazine que vous pouvez recevoir en vous abonnant. Si vous êtes une fidèle de la librairie des femmes inédite, qui nous donne tout plein de nouvelles sur les derniers livres parus et entre autres des commentaires sur certains bouquins. Et Annette est une de ces écrivaines et lectrices surtout prolixes. Alors Annette, moi je t'avais demandé effectivement s'il était possible que l'on présente quelques bouquins écrits ou concernant les femmes algériennes, puisque le 14 juin prochain, à Genève, les femmes, à l'appel de groupe de femmes, vont se montrer solidaires des femmes algériennes. C'est soit le collectif 14 juin, le bulletin d'information des femmes du Maghreb et du Machrek, Kalimat Radio Zone Onde Femmes, qui appelle effectivement les femmes et les hommes à venir manifester le 14 juin pour en solidarité avec les femmes algériennes. Pourquoi le 14 juin ? Eh bien, c'est simple à comprendre. Vous savez bien quel jour représente cette date pour nous toutes et nous tous, surtout nous toutes. Et depuis quelques années, depuis 1991, eh bien, les femmes, selon les endroits en Suisse, romande et ailleurs, choisissent de marquer une chose ou une autre. Et nous, cette année, nous avons choisi ici à Genève de marquer notre solidarité avec les femmes algériennes, femmes et hommes qui luttent pour une Algérie laïque et démocratique. Alors, une manifestation, le 14 juin, convoquée à 18h à la Place Neuve, qui se terminera par un rassemblement, où trois femmes algériennes invitées par les groupes de femmes prendront la parole. C'est un petit peu le moment essentiel qui sera proposé ce jour-là. Et puis, ce sera aussi ce jour-là l'occasion de lancer une pétition adressée au Conseil fédéral qui demandera qu'on élargisse les conditions d'accueil des Algériennes et Algériens qui ont besoin d'un refuge pour se reposer, surtout retrouver un certain calme par rapport à cette peur permanente qui habite beaucoup de femmes et aussi beaucoup d'hommes en Algérie, menacées tant par les violences principalement des intégristes, des fondamentalistes, mais aussi pour certains d'entre eux, des forces du gouvernement. Alors, il y aura durant cette semaine d'autres activités. Le 14 juin, c'est le moment central. Mais durant toute la semaine, il y aura des manifestations qui vous seront proposées, du cinéma, une exposition de photos, des livres. Et ceci, tout concentré dans un seul lieu, puisque c'est l'Université ouvrière de Genève qui nous accueille dans ses bâtiments. Donc c'est vraiment un lieu où on peut se retrouver toute la semaine. Vous pouvez passer un peu n'importe quel jour, vous aurez quelque chose à y faire. Et vous, Annette, la librairie, vous serez à l'UOG le jeudi soir.
Bien sûr que nous nous associons aussi avec les autres mouvements de femmes à la solidarité avec les Algériennes. Il y a déjà un certain temps que nous travaillons ensemble et nous avons participé notamment il y a une année à une manifestation le 8 mars lors de la journée traditionnelle des femmes dans un centre de loisirs. Et ces derniers temps, effectivement, plusieurs livres ont été édité, écrit par des Algériennes ou aussi des hommes algériens, bien sûr. Et j'en ai choisi deux dont je vais vous parler tout à l'heure, qui sont vraiment des témoignages extrêmement poignants, extrêmement pénibles, si on veut, à lire. Mais je crois que c'est aussi indispensable pour nous de nous rendre compte le plus près possible. Je crois que de toute façon, ce n'est pas du tout la même chose que le vivre, mais simplement déjà écouter le mieux possible ce qu'elles ont à nous dire. Ça me paraît la moindre des choses aujourd'hui parce qu'effectivement, il est extrêmement triste et très, très difficile de comprendre la situation aujourd'hui en Algérie par ces tripes.
Oui, je crois qu'effectivement, c'est une chose importante. Comment comprendre ce qui se passe ? Je crois qu'un des soucis essentiels des femmes qui luttent aujourd'hui en Algérie et qui arrivent nous transmettre un certain nombre de messages, et en tout cas celles qui ont été en contact avec nous pour l'organisation de cette semaine de solidarité, nous ont toutes dit ce dont nous avons besoin, c'est que vous informiez de ce qui se passe chez nous. Et donc, il nous a semblé essentiel qu'elles puissent venir le faire elle-même dans la mesure du possible.
Alors bien sûr que la librairie s'associe à cette démarche, notamment en vendant les livres les concernant et en faisant comme ce soir un petit peu publicité pour notre stand. Donc pendant toute la semaine, la librairie sera présente avec ses livres et vous pourrez les acheter.
Alors, il y a une femme qui peut-être est un peu plus médiatique en Algérie que d'autres, parce qu'elle a effectivement cherché à prendre la parole souvent pour parler au nom des femmes, défendre un certain nombre d'idées. C'est une femme qui a une position féministe assez radicale et aussi radicale aussi du point de vue politique, démocratique et laïque dans son pays. C'est Khalida Messaoudi.
Oui.
Et tu as un livre qui parle d'elle sous les yeux.
Donc, effectivement, cette femme a déjà parlé plusieurs fois à la télévision, aussi bien en France qu'en Suisse romande, donc je pense qu'elle est effectivement, comme tu le dis, mieux connue. Je pense qu'effectivement, si on lit ce livre que j'ai là sous les yeux, qui s'appelle « Une Algérienne debout », qui est donc composé d'entretiens de Khalida Messaoudi avec Elisabeth Chemla, eh bien, on arrive beaucoup mieux à se représenter le cheminement qu'elle a parcouru depuis son enfance, sa jeunesse, jusqu'à aujourd'hui, la position extrêmement difficile qu'elle est obligée d'assumer aujourd'hui en France. Enfin, elle habite entre la France et l'Algérie, si je puis dire. Elle rentre régulièrement en Algérie, elle est d'origine kabyle, mais elle doit constamment, elle est sur ses gardes seconde par seconde, pour ainsi dire, parce qu'effectivement, plusieurs de ses amis et de ses connaissances ont déjà été assassinés.
Et elle a reçu une lettre l'informant qu'elle était condamnée à mort par le
membre du GIA. Elle fait partie de ces femmes qui reçoivent effectivement des lettres de condamnation à mort. Elle a d'ailleurs été blessée lors d'une manifestation récemment.
C'était à Alger, la journée du 8 mars, c'était justement la manifestation quand les associations de femmes algériennes avaient décidé de faire ce tribunal populaire contre les fondamentalistes et le gouvernement. Oui, alors je crois que ce qu'il y a d'intéressant, je suis en train de le lire ce livre, hein, tu vois, alors j'en suis un petit peu au milieu comme ça, mais je trouve intéressant qu'à la fois Elisabeth Chemla lui pose des questions sur son enfance, donc on voit un parcours d'une femme qui a vécu, qui a l'âge de son pays, comme dit la journaliste, hein, puisque elle était petite au moment où
l'indépendance
hein. Et donc elle définit bien comment elle a fait partie d'une génération qui était vraiment dans une situation particulière, puisque tout le monde était plein d'espoir de ce qu'on allait pouvoir faire, créer, inventer de nouveau dans ce pays, et que les jeunes d'aujourd'hui, dit-elle, ne sont plus du tout dans cette situation.
Non, effectivement, on a l'impression qu'il y a eu une sorte de décadence du projet algérien d'une rapidité foudroyante, et qu'effectivement, en 20 ans, ils sont montés au sommet et redescendus plus bas que jamais. Et c'est vraiment un sentiment qui doit être assez épouvantable à vivre quand on est comme elle, quelqu'un qui a pu faire des études avec un espoir fou de construire un pays, et tout à coup, il n'y a plus aucune possibilité. Les gens ont pris le pouvoir. Enfin, les gens, elle le dit très clairement, ce sont les intégristes.
Ce qui est de frappant aussi, je trouve, c'est comment elle analyse la situation des femmes, elle fait tomber un certain nombre d'idées reçues, par exemple, sur la pseudo-liberté dont jouissaient plus les femmes kabyles, par exemple, que les femmes d'origine arabe, les kabyles étant berbères d'origine. Et elle nous montre bien que ces femmes ne jouissaient pas plus de liberté qu'ailleurs. Ça dépendait des familles, des traditions, mais qu'en fait, le poids des traditions était très lourd sur le dos des femmes, y compris parmi les berbères et en Kabylie. Et puis, vraiment, elle nous raconte ça au quotidien. C'est ça qui est impressionnant, sa vie de jeune femme dans sa famille, sa mère, et puis comment elle et ses sœurs, par une sorte de miracle, parce que c'était l'indépendance, parce qu'on voulait faire autrement, parce que son père voulait qu'on profite l'école, le savoir, c'était une chose tellement importante, et que justement, comme tu disais, elle a pu accéder aux études qui devaient être un grand espoir pour elle.
Ben, j'aime bien quand tu dis une sorte de miracle, parce que c'est vraiment l'impression qu'on a quand on lit ce livre-là, l'autre de Malika Boussouf, qui aussi sont toujours des femmes qui viennent, les deux en tout cas, viennent de milieux pas forcément extrêmement cultivés ni riches, mais elles peuvent faire des études, ce que leurs mères n'ont jamais fait, et puis tout à coup, tout s'arrête. Donc c'est un miracle qui s'est stoppé complètement, et la frustration doit être tout à fait grande.
Je pense à une petite anecdote, toujours pour parler de l'éducation. Elle dit, oui, une des choses pour lesquelles je reconnais la force du FLN, alors qu'elle le critique énormément par ailleurs, mais c'est d'avoir rendu l'école gratuite. Mais, dit-elle, elle était gratuite, mais elle n'était pas obligatoire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bien évidemment, pour les filles, c'est que dès qu'on avait un projet de mariage pour une fille, bien évidemment, on la retirait de l'école. Et personne, ni l'État, ni rien du tout, aucune loi ne venait protéger la jeune fille qui voulait étudier. On l'enlevait, point à la ligne. L'école avait beau être gratuite, elle n'y allait pas pour autant.
C'est ce qui compte, c'est la famille.
Voilà.
Et c'est quelque chose que la famille presque élargie, enfin le clan familial, les frères notamment, sont absolument les plus présents dans toutes ces familles. Dans les deux livres que j'ai lus, c'est vraiment le clan familial qui permet à ces jeunes femmes de résister à la peur, d'être entourées, d'avoir d'ailleurs des moyens d'existence, parce qu'elles ne peuvent plus en avoir en gagnant de l'argent par leurs propres moyens, puisqu'en fait, elles sont quasiment interdites de travail. Et j'ai trouvé que c'était quelque chose, effectivement, qui, chez nous, est beaucoup, beaucoup moins prégnant. C'est comme ça qu'elle résiste, c'est comme ça qu'elle subsiste, c'est comme si elle retourne chez elle. Elle retourne d'ailleurs les deux en Algérie, en quittant la France où elles ont des contacts, parce qu'elles ne peuvent pas vivre séparées de leur milieu familial.
Mais il y a aussi quelque chose qui m'a frappée dans ce que répond Khalida Messaoudi. Elle dit « Mais désormais, plus une minute de ma vie n'appartient à mon intimité. Je ne peux pas m'en plaindre comme ça, parce que je sais que si les gens sont autour de moi, c'est pour me protéger. Mais en fait, je ne peux plus rien faire sans que tout soit discuté, qu'on dise si c'est possible, si ça ne l'est pas. Je n'ai plus une minute pour moi toute seule où je choisis moi-même ce que je veux faire. Tout est négocié au vu de cette horrible situation de la menace de mort, quoi. Et ça, je crois qu'effectivement, c'est une situation que vivent beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui en Algérie.
Ou
ailleurs, effectivement.
Si on regarde la liste des gens assassinés, ça fait vraiment peur. Et on tremble vraiment chaque jour, enfin chaque minute, quoi.
Bon, je pense qu'il est aussi important de voir combien... effectivement, il y a d'autres endroits dans le monde où des gens sont persécutés, et de remarquer que chaque fois que ces fondamentalistes, ces intégrismes apparaissent, pas forcément l'intégrisme musulman d'ailleurs, c'est toujours les femmes qui en sont les premières victimes. Que quand on parle du backlash, des retours de flamme à propos des femmes en Europe, c'est l'avortement, c'est vite vu. Qui c'est qui paye en premier? C'est les femmes. Si on voit, je lisais des articles sur le judaïsme, je trouve que les femmes ne sont pas beaucoup mieux traitées dans la religion juive. Donc on voit que ces intégrismes de tout poil mettent la femme sur leur grille au premier instant de leur existence, quoi. C'est l'être qui est moins que rien.
C'est un constat bien amer.
C'est un constat bien amer, oui.
Mais on ne peut pas s'empêcher de le faire.
Et de constater. Il s'impose à nous, effectivement, quoi.
C'est sûr. Et je crois qu'effectivement, il faut y penser sans avoir une opinion trop tranchée. Parfois, quand on parle de ça autour de nous, notamment aux jeunes filles qui ont chez nous la possibilité de faire des études tout à fait à l'égal des garçons, et on sait que les filles en Suisse sont aussi nombreuses à l'université que leurs collègues masculins. Malgré tout, les femmes ne sont pas du tout à l'abri. Et bon, on sait bien à quel point les carrières féminines chez nous sont bloquées. C'est pas de l'intégrisme. C'est vrai que là, il y a aussi des résistances très très fortes et qui sont probablement aussi mal analysées. Mais c'est vrai que là, en tout cas, le premier sentiment que j'éprouve moi face à ces femmes, c'est une admiration sans borne pour leur courage et leur détermination. Je crois que c'est déjà le premier hommage que j'aimerais leur rendre aujourd'hui.
Oui. Parce que continuer à lutter pour les droits de la femme dans ces conditions-là, menacées dans leur vie toutes les minutes, même celles qui... En plus, ce qu'il y a d'impressionnant, c'est qu'il suffit d'être dans la rue pour être un objet de menace, quoi, aujourd'hui. Et bien sûr, celles qui s'engagent pour la lutte des femmes, c'est bien sûr beaucoup plus de risques. La personne qui écrit le deuxième livre que tu as sous les yeux, excuse-moi, je n'ai pas retenu le nom.
Alors, la personne qui écrit le livre, c'est une journaliste, en fait, qui s'appelle Malika Boussouf. Elle intitule son livre « Vivre traqué ». Et en fait, c'est une autobiographie, mais enfin très, très limitée dans le temps. Enfin, c'est une jeune femme. Elle raconte aussi, comme Khalida Messaoudi, son enfance et son activité de journaliste engagée à la télévision algérienne. Actuellement, d'ailleurs, son émission, qui était donc très, très vue là-bas, est stoppée. Parce qu'effectivement, elle a plusieurs fois interviewé des intellectuels algériens. Notamment, elle parle de l'interview d'un médecin psychiatre extrêmement nuancé, qui a d'ailleurs été assassiné peu de temps après l'émission. Et elle a, entre autres, condamné très fortement la dérive de la scolarisation arabisante, si je puis dire. Donc le fait que peu à peu, depuis 1990, en Algérie, le français n'était plus la langue officielle dans les écoles, on voulait enseigner en arabe, il y avait une espèce de déperdition de la formation des jeunes. Et actuellement, les gens sont de moins en moins bien formés dans les écoles, parce que tout a été repris au niveau de, entre autres par certains islamisants, et le gouvernement, les gens en place, laissent faire. Donc elle a dénoncé ça très très fort à la télévision, et elle a aussi fait l'objet de menaces de mort, comme Khalida Messaoudi. Elle raconte pas mal de choses sur son enfance, une enfance extrêmement triste. Et elle a pu peu à peu quand même devenir quelqu'un qui a pu faire des études et qui a pu trouver un métier qui lui plaisait, dans lequel elle avait de bonnes performances, qui est donc le journalisme. C'est un livre qui est, j'ai envie de dire, plus sensible, plus intuitif que celui de Khalida Messaoudi, qui a quand même qui a une lutte féministe engagée depuis plusieurs années. Malika Boussouf, elle vous raconte avec ses tripes à quel point elle a peur. Alors que ce soit femme, homme, enfant, pour elle, ce n'est pas tellement ça le problème. C'est l'Algérie, son pays, qui est en train de se perdre complètement, d'être complètement annihilée en tant que possibilité de vie agréable pour tout le monde, de réflexion démocratique, et ça, elle en souffre terriblement. Elle est issue, elle, d'une famille qui a beaucoup milité dans l'indépendance algérienne. Donc elle est aussi très, très anticolonialiste. Et puis elle raconte aussi comment, peu à peu, elle a révisé un petit peu son jugement en venant en France et en rencontrant des gens ouverts.
Je crois que la peur qu'exprime Malika Boussouf est exprimée aussi par Khalida Messaoudi. Elle dit « j'ai peur, je dois admettre que j'ai peur et il faut que je le dise ». Et je crois qu'effectivement, les gens qui aujourd'hui, ou les femmes qui prétendraient arriver à ne pas avoir peur, sauf que visiblement, il faut trouver le moyen de surmonter cette peur, ne serait-ce que dans sa tête, pour continuer à vivre. Autrement, on devient folle, quoi. Je crois que c'est là ce qui
Alors,
doit
Malika Boussouf,
faire peur à ces femmes.
Elle va très très loin dans cette analyse-là, dans son livre. C'est vraiment un coup de poing, ce livre. il est un petit peu différent, mais je pense qu'il se complète très très bien pour, comme on le disait au début, on essaye de se rendre compte de comment elles vivent.
War eine Stadt und alle Römer hatten in den Adern heißes Blut. Als sie Cäsar einst tyrannisch reizte, kochte es sofort in Siedeglut. Nicht die Warnung konnte Cäsar hindern, hüte vor des Märzes Sieden dich. Er verfolgte seine frechen Ziele und sah schon als Herrn der Römer sich. Er verfolgte seine frechen Ziele und sah schon als Herrn der Römer sich. Immer schlimmer schlug ihn die Verblendung, nur sein Wort galt noch im Kapitol. Und den weisen Rat der Senatoren schmähte er gemein und höhnisch Kohl. Da kam stolzes Römerblut ins Wallen, selbst der Freund bleibt keinem Cäsar treu. Wenn ihn dieser nur für seine Zwecke kalt missbraucht und sagt es ohne Scheu, wenn ihn dieser nur für seine Zwecke kalt missbraucht und sagt es ohne Scheu. Heimlich trafen nachts sich die Verschwörer und beredeten voll Eifer sich. Und genau am Tag des Märzes Iden gab ihm Brutus den verdienten Stich. Cäsar sank von seinem Sitz und stierte seinen Mörder an, als ob's nicht war. E tu Brute, rief er auf Lateinisch, wie es dort die Landessprache war. Lasse keiner sich vom Wahn verführen, dass er mehr als jeder andere gilt. Cäsar wollte mit dem Schwert regieren und ein Messer hat ihn selbst gefällt. Cäsar wollte mit dem Schwert regieren und ein Messer hat ihn selbst gefällt.
Ça, c'était pas du tout en lien avec notre sujet, non, pas vraiment, puisque c'était Kurt Weill chanté par Ute Lemper. Alors, Annette avait envie de nous lire justement un passage où Melika Aboussouf exprime cette peur dont nous parlions tout à l'heure.
Donc la journaliste raconte son départ le matin. C'est l'instant le plus grave de la journée. Le chauffeur est déjà là. Elle ne peut plus faire marche arrière. Il lui faut rejoindre la rédaction. La gorge serrée, Nina se décide à ouvrir la porte. La regarde un moment se refermer derrière elle. Il n'y a plus de possibilité de retraite. Il faut y aller. Elle sait qu'elle reviendra parmi les siens, mais s'interdit de jurer qu'elle marchera sur ses deux jambes. Elle est obsédée par la mort, comme tous ses confrères. Quand arrivera l'été, Nina pourra prendre ses congés annuels. Pendant 15 jours, elle restera barricadée à la maison. Pour ne pas tourner en rond, elle va se consacrer à refaire toutes les peintures. Elle veut en faire la surprise à sa mère, partie pour un mois chez sa grande sœur dans une ville de l'Est, presque entièrement contrôlée par les intégristes. 15 jours à nettoyer le carrelage, à faire à manger à sa sœur Sarah et au vieux peintre Ali, chargé de remettre à neuf cet appartement. 15 jours à penser, alors que la forte odeur de peinture lui prendra la gorge, que les gens qui assisteront à son enterrement entreront ainsi dans une maison propre. La mort, toujours la mort, partout présente, plus forte que tout. Elle lui colle à la peau comme une seconde nature. d'une conférence en France. Je voudrais vous dire, mesdames et messieurs, qu'il est hors de question pour nous, journalistes algériens, de renoncer à un acquis chèrement payé. La liberté d'expression, nous la payons au prix du sang quotidiennement. La liberté de parole ne nous a pas été offerte, nous l'avons arrachée. Ne doutez donc jamais que nous nous battrons pour la préserver. Il est extrêmement difficile d'aller au travail le matin sans savoir si la mort ne vous guette pas sur le palier ou au coin de la rue. Si vous allez revoir vos parents, vos copains, il est extrêmement pénible de tenir le coup après des nuits d'insomnie quand elles ne sont pas peuplées de cauchemars. Il est extrêmement dur de résister au risque de sombrer dans la folie. Nous ne disposons ni de voitures blindées, ni de gilets pare-balles pour affronter le danger. Nos confrères étrangers qui ont tenté de le braver n'ont pas été épargnés. Elle est là, l'odieuse vérité que l'on tente, hélas, trop souvent d'occulter. Alors, comprenez-nous. Aidez-nous à surmonter ce qui se passe en Algérie et qui ne porte pas de nom. Ne nous jugez pas trop sévèrement. La vie en Algérie est déjà trop dure, à la limite du supportable. Dites-vous bien que rien ne pourra jamais, au grand jamais, justifier le sort qui est fait aujourd'hui à tout un peuple au nom duquel les égorgeurs et autres coupeurs de têtes prétendent se battre. L'Algérie a mal, l'Algérie est triste, l'Algérie a peur. Elle a peur parce qu'elle est en danger. Elle a peur du couteau empoisonné qu'on lui aurait volontairement plongé dans le sein. Elle a peur parce qu'elle a été trahie le jour où le droit d'exister légalement a été accordé à un parti moyenâgeux. Il y a 50 ans, en Allemagne et en Italie, Hitler et Mussolini ont été portés au pouvoir par les urnes. Personne alors ne se doutait de ce que ces deux monstres de fascistes allaient faire subir comme horreur au reste de l'humanité. Aujourd'hui, alors que le monde s'ouvre et s'épanouit à la science, alors que le monde parle de paix, de liberté et de bonheur, un parti totalitaire et rétrograde, un parti sanguinaire et revanchard, un parti destructeur et obscurantiste rêve. Il rêve d'une seule chose, donner enfin un coup fatal à l'Algérie. Il rêve d'en finir avec la notion même de patrie. Il attend cyniquement d'en finir avec tout ce qui pourrait faire la joie de vivre ici-bas.
Αρχινό το τραγούδι μου με θέρια λόγια.